Manuscrit 144, à l'approche de la fin. Tout ce que Jésus a fait sur la terre visait un seul objectif, la gloire de son Père. Il dit « J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné » Jean 14, 31. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 18. Dans tout ce qu'il faisait, il accomplissait la volonté de son Père, de sorte que sa vie sur terre a été une manifestation de la perfection divine. En Christ, l'union de la divinité et de l'humanité devait nous révéler le dessein de Dieu, à savoir amener l'homme à avoir une relation plus étroite avec lui. Il nous est impossible d'être heureux sans lui. L'apostasie originelle a commencé dans l'incrédulité et le déni de la vérité. Nous devons fixer résolument le regard de la foi sur Jésus. Lorsque les jours viendront où la loi de Dieu sera déclarée caduque, le zèle des chrétiens authentiques et loyaux devra augmenter avec l'urgence et gagner en ardeur et en détermination. Et leur témoignage devra être indéfectible et positif. Mais nous ne devrons rien faire dans un esprit de défi, ce qui ne se produira pas si nos cœurs sont entièrement soumis à Dieu. Il est maintenant temps pour le peuple de Dieu d'accomplir les devoirs qui se présentent à lui. Soyez fidèles dans les petites choses, car de leur fidèle accomplissement dépendent de grands résultats. Ne négligez pas le travail qui doit être fait, sous prétexte qu'il vous paraît petit et insignifiant. Investissez tous les terrains en friche, réparez les brèches dès qu'elles se produisent. Qu'aucune divergence ou dissension n'apparaisse dans l'Église. Que tous se mettent au travail et aident celui qui en a besoin. Il y a une cause à la grande faiblesse de nos Églises, et cette cause est difficile à éradiquer. C'est le « moi ». Les hommes n'ont pas trop de volonté, mais ils doivent la consacrer entièrement à Dieu. Ils ont besoin de tomber sur le rocher et s'y briser. Le moi doit être crucifié si l'on veut franchir les portes de la cité de Dieu. La violence qui jaillit dans le cœur de certains dans l'Église lorsque quelque chose ne leur plaît pas est l'esprit de Satan et non pas l'esprit du Christ. N'est-il pas grand temps pour nous de revenir à notre premier amour et d'être en paix les uns avec les autres? Nous devons montrer que nous sommes non seulement des lecteurs de la Bible, mais des croyants en la Bible. Si nous sommes unis au Christ, nous serons unis les uns aux autres. Voir Jean 13, verset 34, Romains 15, verset 1 à 5. L'augmentation de notre nombre et l'agrandissement de nos installations signifient qu'il y a du travail. Cela réclame une entière consécration et un dévouement total. Dieu n'a pas de place dans son œuvre pour des hommes et des femmes sans conviction, qui ne sont ni froids ni chauds. Le Christ a dit « Je vais te vomir de ma bouche » Apocalypse 3, verset 16. Dieu fait appel à des hommes qui lui sont entièrement consacrés. En ces temps particuliers, l'Église ne devrait pas être détournée de son centre d'intérêt vital pour des choses qui n'apportent ni santé, ni courage, ni foi, ni puissance. Les croyants doivent voir, et par leurs actions, témoigner que l'Évangile est pugnace. Mais la lumière, qui est donnée pour que son éclat aille croissant jusqu'au milieu du jour, luit faiblement. L'Église n'envoie plus les rayons clairs et lumineux de lumière au sein des ténèbres morales qui enveloppent le monde comme un drap mortuaire. La lumière d'un grand nombre ne brille plus. Ce sont des icebergs moraux. Les sentinelles sur les murs de Sion doivent être vigilantes et ne pas s'assoupir ni le jour ni la nuit. Mais si elles n'ont pas reçu le message des lèvres du Christ, leurs trompettes donneront un son incertain. Frères, pasteurs et laïcs, Dieu vous appelle à écouter sa voix qui vous parle dans sa parole. Recevez sa vérité dans votre cœur, afin que vous soyez rendus spirituels par sa puissance vivifiante et sanctifiante. Puis, que le clair message pour notre temps se transmette de sentinelle en sentinelle sur les murs de Sion. Nous vivons à une époque où tous s'éloignent de la vérité et de la justice. Nous devons maintenant rebâtir les anciennes ruines et, dans un effort intéressé, travailler à relever les fondations de nombreuses générations. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Voir aussi Ésaïe 51, versets 7 à 16, 62, versets 1 à 4. Alors que vous élevez résolument la bannière de la vérité, proclamant la loi de Dieu, que chaque âme se rappelle que la foi de Jésus est attachée au commandement de Dieu. Le troisième ange est représenté comme volant par le milieu du ciel, symbolisant l'œuvre de ceux qui proclament les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Ils sont tous reliés entre eux. L'épreuve de la vérité éternelle de ces grands messages, qui signifient tant pour nous et ont suscité une si intense opposition de la part du monde religieux, ne sont pas éteintes. Satan cherche constamment à jeter son ombre infernale sur ces messages, de manière à ce que le peuple du reste de Dieu ne puisse en discerner clairement l'importance, l'actualité et la portée. Mais ils sont vivaces et doivent exercer leur pouvoir sur notre expérience religieuse tant que durera le temps. L'influence de ces messages s'est intensifiée et étendue, mettant en mouvement les ressorts de l'action dans des milliers de cœurs, créant des écoles, des maisons d'édition et des établissements de santé. Tous sont les instruments de Dieu qui doivent coopérer dans la grande œuvre représentée par les premiers, deuxième et troisième anges volant par le milieu du ciel pour avertir les habitants du monde que le Christ revient avec puissance et une grande gloire. Le révélateur dit « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande. » Apocalypse 18, versets 1-2. Le même message a été donné par le deuxième ange, Babylone est tombée, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Quel est ce vin? Ses fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du quatrième commandement, et a répété le mensonge que Satan a proféré le premier à Ève en Éden, l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu de nombreuses erreurs du même acabit, enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Matthieu 15, verset 9. Lorsque Jésus a entamé son ministère public, il a purifié le temple de sa profanation. Le dernier acte, quasiment, de son ministère a été de purifier à nouveau le temple. Ainsi, dans le dernier avertissement adressé au monde, deux appels distincts sont lancés aux églises, le message du deuxième ange et la voix entendue dans le ciel. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, versets 4-5. Comme Dieu a appelé les enfants d'Israël hors d'Égypte, afin qu'ils puissent garder son sabbat, de même, il appelle son peuple à sortir de Babylone, afin qu'il n'adore ni la bête, ni son image. L'homme impie, qui a espéré changer les temps et la loi, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, Daniel 7, verset 25, s'est exalté lui-même au-dessus de Dieu en présentant ce faux sabbat au monde. Le monde chrétien a accepté cet enfant de la papauté et l'a bercé et nourri, défiant ainsi Dieu en ôtant son mémorial et en le remplaçant par un sabbat rival. Après que la vérité a été proclamée pour « servir de témoignage à toutes les nations », Matthieu 24, 14, à un moment où toutes les puissances du mal sont mises en action, quand les esprits sont dans la confusion à cause des nombreuses voix qui crient « Voici, le Christ est ici, voici, il est là, ceci est la vérité, j'ai le message de Dieu ». Il m'a envoyé avec une grande lumière. Quand les points de repère ont été enlevés et qu'on a tenté d'abattre les piliers de notre foi, alors un effort encore plus déterminé est déployé pour exalter le faux sabbat et pour jeter le discrédit sur Dieu lui-même en évinçant le jour qu'il a béni et sanctifié. Ce faux sabbat doit être imposé par une loi contraignante. Satan et ses anges sont bien éveillés et intensément actifs, travaillant avec énergie et persévérance par le biais d'agents humains pour mener à bien leur objectif d'effacer la connaissance de Dieu. Alors que Satan travaille maintenant avec ses prodiges mensongers, le temps prédit dans l'Apocalypse est venu où l'ange puissant qui doit éclairer la terre de sa gloire proclamera la chute de Babylone et appellera le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle. Voir Apocalypse 18, versets 1 à 8.
Le Seigneur m'a montré que ceux qui ont été, dans une certaine mesure, aveuglés par l'ennemi et ne se sont pas entièrement dégagés des pièges de Satan, seront en péril parce qu'ils ne peuvent pas discerner la lumière du ciel et seront enclins à accepter un mensonge. Cela affectera toutes leurs pensées, leurs décisions, leurs propositions, leurs conseils. Les preuves données par Dieu n'en sont absolument pas pour eux, parce qu'ils se sont aveuglés eux-mêmes en choisissant les ténèbres plutôt que la lumière. Alors, ils produiront une chose qu'ils appelleront « lumière », mais que le Seigneur qualifie de « flèche ardente que vous avez enflammée », Ésaïe 50, verset 11, qui dirigera leurs pas. Le Seigneur déclare « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Ésaïe 50, versets 10, 11. Jésus a dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 9, verset 39, 12, verset 46, 48. Les messages du Seigneur seront rejetés par beaucoup, et les paroles de l'homme seront reçues comme la lumière et la vérité. La sagesse humaine éloignera les cœurs de l'abnégation, de la consécration, et elle concevra beaucoup de choses qui rendront les messages de Dieu inopérants. Nous ne pouvons pas compter sereinement sur des hommes qui n'ont pas une relation étroite avec Dieu. Ils acceptent les opinions des hommes, mais ne discernent pas la voix du vrai berger. Et par leur influence, ils égareront beaucoup de gens en dépit d'une accumulation d'épreuves témoignant de la vérité que le peuple de Dieu devrait avoir pour ce temps. La vérité est conçue pour amener les hommes au Christ, pour raviver leur énergie, pour subjuguer et adoucir leur cœur, et leur inspirer zèle, dévotion et amour pour Dieu. La vérité du sabbat ne doit en aucun cas être étouffée. Nous devons la laisser apparaître en parfait contraste avec l'erreur. À l'approche de la fin, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront plus déterminés et plus puissants, apportant la lumière de la vérité sur les systèmes d'erreur et d'oppression qui ont si longtemps eu la suprématie. Le Seigneur nous a envoyé des messages pour ce temps afin d'établir le christianisme sur un fondement éternel, et tous ceux qui croient en la vérité présente doivent se confier, non pas dans leur propre sagesse, mais en Dieu, et renforcer les fondements de nombreuses générations. Ceux-là seront enregistrés dans les livres du ciel comme des réparateurs de brèches, des restaurateurs des chemins et du pays pour le rendre habitable. Nous devons maintenir la vérité parce que c'est la vérité, en dépit de la plus farouche opposition. Dieu est à l'œuvre dans l'esprit humain. L'homme n'est pas seul à travailler. La grande puissance illuminatrice vient du Christ. L'éclat de son exemple doit continuer à briller devant tous à travers tous nos discours. L'arc-en-ciel au-dessus du trône, l'arc de la promesse, témoigne devant le monde entier que jamais Dieu n'oubliera son peuple dans sa lutte. Que Jésus soit notre thème. Présentons avec nos plumes et nos voix non seulement les commandements de Dieu, mais la foi de Jésus. Il n'y a rien qui puisse mieux encourager la piété réelle du cœur. Alors que nous présentons le fait que les hommes sont les sujets d'un gouvernement moral divin, leur raison leur enseigne que c'est la vérité, qu'ils doivent allégeance à l'Éternel. Cette vie est notre temps de probation. Nous sommes placés sous la discipline et le gouvernement de Dieu pour nous forger un caractère et acquérir des habitudes en vue de la vie éternelle. Des tentations surviendront. L'iniquité abonde. Quand vous vous y attendrez le moins, de sombres et terribles chapitres s'ouvriront et ils pèseront sur l'âme. Mais nous ne devons ni échouer, ni nous décourager, puisque nous savons que l'arc de la promesse est au-dessus du trône de Dieu. Nous serons soumis à de lourdes épreuves, à l'opposition, au deuil et à l'affliction, mais nous savons que Jésus a enduré tout cela. Ces expériences nous sont précieuses. Leurs bienfaits ne sont en aucune manière limités à cette courte vie. Il se perpétue jusque dans les siècles sans fin.
par la patience, la foi et l'espérance, dans toutes les circonstances de la vie, nous nous forgeons des caractères pour la vie éternelle. Tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Voir Romains 8, verset 28. Toutes les scènes de la vie dans laquelle nous devons jouer un rôle doivent être soigneusement étudiées, car elles font partie de notre éducation. Nous devons ajouter de solides poutres à la construction de notre caractère, car nous travaillons à la fois pour cette vie et pour la vie éternelle. Et comme nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre, soit nous avançons de plus en plus rapidement dans la croissance chrétienne, soit nous reculons tout aussi résolument. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et je me souviendrai de mon alliance, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Genèse 9, versets 13 à 15. L'arc-en-ciel au-dessus du trône constitue un témoignage éternel de ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Chaque fois que la loi est présentée au peuple, que l'enseignant de la vérité montre le trône surmonté de l'arc de la promesse, la justice du Christ. Le Christ est la gloire de la loi. Il est venu rendre la loi grande et magnifique. Ésaïe 42, verset 21. Faites ressortir clairement qu'en Christ, la bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. C'est en contemplant son trône, en offrant votre repentance, votre louange et vos actions de grâce à Dieu, que vous perfectionnerez votre caractère chrétien et représenterez le Christ aux yeux du monde. Vous demeurez en Christ et Christ demeure en vous. Vous avez cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Nous devons constamment méditer sur le Christ et sur son charme plein d'attraits. Nous devons diriger les esprits vers Jésus, les fixer sur lui. Dans tous vos discours, insistez sur les attributs divins. Comme l'arc-en-ciel est formé par l'union de la lumière du soleil et de la pluie, de même, l'arc entourant le trône représente la puissance combinée de la miséricorde et de la justice. Il n'y a pas que la justice qui doive être maintenue, car cela éclipserait la gloire de l'arc de la promesse au-dessus du trône. L'homme ne verrait que la rétribution de la loi. S'il n'y avait pas de justice, pas de peine, il n'y aurait pas de stabilité dans le gouvernement de Dieu. C'est le mélange de jugement et de miséricorde qui rend la rédemption parfaite. C'est l'association des deux qui nous pousse à nous écrier, en considérant le Rédempteur du monde et la loi de l'Éternel, « Je deviens grand par ta bonté ». Nous savons que l'Évangile est un système parfait et complet, révélant l'immutabilité de la loi de Dieu. Il inspire au cœur espérance et amour pour Dieu. La miséricorde nous invite à entrer par les portes dans la cité de Dieu, et la justice est satisfaite d'accorder à toute âme obéissante les pleins privilèges en tant que membre de la famille royale et enfant du roi céleste. Si nos caractères étaient défectueux, nous ne pourrions pas passer les portes que la miséricorde a ouvertes à l'obéissance, car la justice se tient à l'entrée, exigeant la sainteté, la pureté de tous ceux qui voudraient voir Dieu. Si la justice n'était plus, et s'il était possible pour la miséricorde divine d'ouvrir les portes à la race humaine tout entière, indépendamment du caractère, alors il régnerait dans le ciel une pire condition de mécontentement et de rébellion qu'avant l'expulsion de Satan. La paix, le bonheur et l'harmonie du ciel seraient brisés. Le passage de la terre au ciel ne changera pas le caractère des hommes. Le bonheur des rachetés dans le ciel sera le résultat de caractères transformés, dans cette vie, à l'image du Christ. Les saints dans le ciel auront d'abord été saints sur la terre. Le seul salut qui ait de la valeur, c'est celui pour lequel le Christ a fait un tel sacrifice pour le rendre accessible à l'homme. C'est celui qui sauve du péché, la cause de toute la misère et de tout le malheur dans notre monde. La miséricorde offerte aux pécheurs l'attire constamment à Jésus. S'il y répond, s'approchant dans la repentance et la confession, se saisissant par la foi de l'espérance qui lui est proposée dans l'Évangile, Dieu ne méprisera pas le cœur brisé et contrit. Ainsi, la loi de Dieu n'est pas affaiblie, mais la puissance du péché est brisée, et le sceptre de la miséricorde est tendu vers le pécheur repentant.